Marcel Proust, Sentiments filiaux d'un parricide. Quand M. van Blarenberg, le père, mourut, il y a quelques mois, je me souvins que ma mère avait beaucoup connu sa femme. Depuis la mort de mes parents, je suis, oh, dans un sens qu'il serait hors de propos de préciser ici, moins moi-même, davantage leur fils. Sans me détourner de mes amis, plus volontiers je me retourne vers les leurs. Et les lettres que j'écris maintenant, ce sont pour la plupart celles que je crois qu'ils auraient écrites, celles qu'ils ne peuvent plus écrire et que j'écris à leur place. Félicitations, condoléances, surtout à des amis, à eux, que souvent je ne connais presque pas. Donc, quand Madame van Blarenberg perdit son mari, je voulus qu'un témoignage lui parvint de la tristesse que mes parents en eussent éprouvée. Je me rappelais que j'avais, ou il y avait déjà bien des années, dîné quelquefois chez les amis communs, avec son fils. C'est à lui que j'écrivis, pour ainsi dire au nom de mes parents, disparus, bien plus qu'au mien. J'ai reçu en réponse la belle lettre suivante, empreinte d'un si grand amour filial. J'ai pensé qu'un tel témoignage, avec la signification qu'il reçoit du drame qu'il a suivi de si près, avec la signification qu'il lui donne surtout, devait être rendu public, et voici cette lettre. Les Timbrieux, par Jocelyn Morbihan, 24 septembre 1906. Je regrette vivement, cher monsieur, de ne pas avoir pu vous remercier encore de la sympathie que vous m'avez témoignée dans ma douleur. Vous voudrez bien m'excuser, cette douleur était telle que, sur le conseil des médecins, pendant 4 mois, j'ai constamment voyagé. Je commence seulement, et avec une peine extrême, à reprendre ma vie habituelle. Si tardivement que cela soit, je veux vous dire aujourd'hui que j'ai été extrêmement sensible aux fidèles souvenirs que vous avez gardés de nos anciennes et excellentes relations, et profondément touché du sentiment qui vous a inspiré de me parler, ainsi qu'à ma mère, au nom de vos parents si prématurément disparus. Je n'avais personnellement l'honneur de les connaître que fort peu, mais je sais combien mon père appréciait le vôtre et quel plaisir ma mère avait toujours à voir Madame Proust. J'ai trouvé extrêmement délicat et sensible que vous ayez envoyé d'eux un message d'outre-tombe. Je rentrerai assez prochainement à Paris et si je réussis d'ici peu à surmonter le besoin d'isolement que m'a causé jusqu'ici la disparition de celui à qui je rapportais tout, l'intérêt de ma vie, qui en faisait toute la joie, je serai bien heureux d'aller vous serrer la main et causer avec vous du passé. Très affectueusement à vous, H. van Blarenberg. Cette lettre me toucha beaucoup. Je plaignais celui qui souffrait ainsi. Je le plaignais et je l'enviais. Il avait encore sa mère pour se consoler en la consolant. Et si je ne pus répondre aux tentatives qu'il voulut bien faire pour me voir, c'est que j'en fus matériellement empêché. Mais surtout, cette lettre modifia, dans un sens plus sympathique, le souvenir que j'avais gardé de lui. Les bonnes relations auxquelles il avait fait allusion dans sa lettre étaient en réalité de fort banales relations mondaines. Je n'avais guère eu l'occasion de causer avec lui à la table où nous dînions quelquefois ensemble, mais l'extrême distinction d'esprit des maîtres de maison m'était aimé rester un sûr garant qu'Henri van Blarenberg, sous des dehors un peu conventionnels et peut-être plus représentatifs du milieu où il vivait que significatifs de sa propre personnalité, cachait une nature plus originale et vivante. Au reste, parmi ces étranges instantanés de la mémoire que notre cerveau, si petit et si vaste, emmagasine en nombre prodigieux, si je cherche entre ceux qui figurent Henri van Blarenberg l'instantané qui me semble rester le plus net, c'est toujours un visage souriant que j'aperçois, souriant du regard surtout qu'il avait singulièrement fin, la bouche encore entr'ouverte après avoir jeté une fine répartie. Agréable et assez distingué, c'est ainsi que je le revois, comme on dit avec raison. Nos yeux ont plus de part qu'on ne croit dans cette exploration active du passé qu'on nomme le souvenir. Et si au moment où sa pensée va chercher quelque chose du passé pour le fixer, le ramener un moment à la vie, vous regardez les yeux de celui qui fait effort pour se souvenir, vous verrez qu'ils se sont immédiatement vidés des formes qui les entourent et qu'ils reflétaient il y a un instant. Vous avez un regard absent, vous êtes ailleurs, disons-nous. Et pourtant, nous ne voyons que l'envers du phénomène qui s'accomplit à ce moment-là dans la pensée. Alors, les plus beaux yeux du monde ne nous touchent plus par leur beauté. Ils ne sont plus, pour détourner de sa signification une expression de Wells, que des machines à explorer le temps, des télescopes de l'invisible, qui deviennent à plus longue portée à mesure qu'on vieillit. On se sent si bien en voyant se bander pour le souvenir le regard fatigué de tant d'adaptations à des temps si différents, souvent si lointains, le regard rouillé des vieillards. On sent si bien que sa trajectoire traversant l'ombre des jours vécus va atterrir à quelques pas devant eux, semble-t-il, en réalité à 50 ou 60 ans en arrière. Je me souviens combien les yeux charmants de la princesse Mathilde changeaient de beauté quand ils se fixaient sur telle ou telle image qu'avaient déposée eux-mêmes sur sa rétine et dans son souvenir tels grands hommes, tels grands spectacles du commencement du siècle. Et c'est cette image-là émanée d'eux qu'elle voyait et que nous ne verrons jamais. J'éprouvais une impression de surnaturel à ces moments où mon regard rencontrait le sien, qui, d'une ligne courte et mystérieuse, dans une activité de résurrection, joignait le présent au passé. Agréable et assez distingué, disais-je, c'est ainsi que je revoyais Henri von Blarenberg dans une des meilleures images que ma mémoire ait conservées de lui. Mais après avoir reçu cette lettre, je retouchais cette image au fond de mon souvenir, en interprétant dans le sens d'une sensibilité plus profonde, d'une mentalité moins mondaine, certains éléments du regard ou des traits qui pouvaient en effet comporter une acception plus intéressante et plus généreuse que celle où je m'étais d'abord arrêté. Enfin, lui ayant dernièrement demandé des renseignements sur un employé des chemins de fer de l'Est, M. Van Berenberg était président du conseil d'administration à qui un de mes amis s'intéressait, je reçus de lui la réponse suivante, qui, écrite le 12 janvier dernier, ne me parvint, par suite de changement d'adresse qu'il avait ignoré, que le 17 janvier, il n'y a pas 15 jours, moins de 8 jours avant le drame. 48 rue de la Bienfaisance, 12 janvier 1907. Cher monsieur, je me suis informé à la Compagnie de l'Est de la présence possible dans le personnel de X et de son adresse éventuelle. On n'a rien découvert. Si vous êtes bien sûr du nom, celui que le porte a disparu de la Compagnie sans laisser de traces. Il ne devait y être attaché que d'une manière bien provisoire et accessoire. Je suis vraiment bien affligé des nouvelles que vous me donnez de l'état de votre santé, depuis la mort si prématurée et cruelle de vos parents. Oh, si ce peut être une consolation pour vous, je vous dirai que moi aussi j'ai bien du mal physiquement et moralement à me remettre de l'ébranlement que m'a causé la mort de mon père. Faut espérer toujours. Oh, je ne sais ce que me réserve l'année 1907, mais souhaitons qu'elle nous apporte à l'un et à l'autre quelque amélioration, et que dans quelques mois nous puissions nous voir. Veuillez agréer, je vous prie, mes sentiments les plus sympathiques, Henri von Blarenberg. 5 ou 6 jours après avoir reçu cette lettre, je me rappelais en m'éveillant que je voulais y répondre. Il faisait un de ces grands froids inattendus qui sont comme les grandes marées du ciel, recouvrant toutes les digues que les grandes villes dressent entre nous et la nature, et venant battre nos fenêtres closes, pénètre jusque dans nos chambres en faisant sentir à nos frileuses épaules, par un vivifiant contact, le retour offensif des forces élémentaires. Jour troublé de brusques changements barométriques, de secousses plus graves. Nulle joie d'ailleurs dans tant de force. On pleurait d'avance la neige qui allait tomber, et les choses elles-mêmes, comme dans le brou vert d'André Rivoire, avaient l'air d'attendre de la neige. Qu'une dépression s'avance vers les Baléares, comme disent les journaux, que seulement la Jamaïque commence à trembler. Au même instant à Paris, les migraineux, les rhumatisants, les asthmatiques, les fous sans doute aussi, prennent leur crise, tant les nerveux sont unis aux points les plus éloignés de l'univers, par les liens d'une solidarité qu'ils souhaiteraient souvent moins étroite. Si l'influence des astres sur certains, au moins d'entre eux, doit être un jour reconnue, Fabry, Pelletan, Sidébat, Brissot, à qui mieux d'appliquer qu'à tel nerveux le vers du poète et de longs fils soyeux l'unissent aux étoiles. En m'éveillant, je me disposais à répondre à Henri van Barenberg, mais avant de le faire, je voulus jeter un regard sur le Figaro, procéder à cet acte abominable et voluptueux qui s'appelle lire le journal, et grâce auquel tous les malheurs et les cataclysmes de l'univers pendant les dernières 24 heures, les batailles qui ont coûté la vie à 50 000 hommes, les crimes, les grèves, les banqueroutes, les incendies, les empoisonnements, les suicides, les divorces, les cruelles émotions de l'homme d'État et de l'acteur, transmués pour notre usage personnel, à nous qui n'y sommes pas intéressés, en un régal matinal, s'associe excellemment d'une façon particulièrement excitante et tonique à l'ingestion recommandée de quelques gorgées de café au lait. Aussitôt rompu, d'un geste indolent, la fragile bande du Figaro, qui seule nous séparait encore de toute la misère du globe, et dès les premières nouvelles sensationnelles, où la douleur de tant d'êtres entre comme élément, ces nouvelles sensationnelles que nous aurons tant de plaisir à communiquer tout à l'heure à ceux qui n'ont pas encore lu le journal, on se sent soudain allègrement attaché à l'existence qui, au premier instant du réveil, nous paraissait bien inutile à ressaisir. Et si par moments, quelque chose comme une larme a mouillé nos yeux satisfaits, c'est à la lecture d'une phrase comme celle-ci. Un silence impressionnant étreint tous les cœurs. Les tambours battent au champ. Les troupes présentent les armes. Une immense clameur retentit. « Vive Falière !» Voilà ce qui nous arrache un pleur que nous refuserions à un malheur proche de nous. Vil comédien que seul fait pleurer la douleur d'Hercule, ou, moins que cela, le voyage du président de la République. Ce matin-là, pourtant, la lecture du Figaro ne me fut pas douce. Je venais de parcourir d'un regard charmé les éruptions volcaniques, les crimes ministériels et les duels d'Apache, et je commençais avec calme la lecture d'un fait divers que son titre, « Un drame de la folie », pouvait rendre particulièrement propre à la vive stimulation des énergies matinales, quand, tout d'un coup, je vis que la victime, c'était Madame van Blarenberg, et que l'assassin qui s'était ensuite tué, c'était son fils Henri van Barenberg, dont j'avais encore la lettre près de moi pour y répondre. Il faut espérer toujours. Je ne sais ce que me réserve 1907, mais souhaitons qu'il nous apporte un apaisement, etc. Il faut espérer toujours. Je ne sais ce que me réserve 1907. La vie n'avait pas été longue à lui répondre. 1907 n'avait pas encore laissé tomber son premier mois de l'avenir dans le passé, qu'elle lui avait apporté son présent, fusil, revolver et poignard avec sur son esprit le bandeau qu'Athénée attachait sur l'esprit d'Ajax pour qu'il massacrât pasteurs et troupeaux dans le camp des Grecs sans savoir ce qu'il faisait. C'est moi qui ai jeté des images mensongères dans ses yeux, et il s'est rué, frappant ça et là, pensant tuer de sa main les Atrides et se jetant tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre. Et moi, j'excitais l'homme en proie à la démence furieuse, et je le poussais dans des embûches, et il vient de rentrer là, la tête trempée de sueur et les mains ensanglantées. Tant que les fous frappent, ils ne savent pas. Puis, la crise passée, quelle douleur! Tel que ça, la femme d'Ajax le dit. Sa démence est finie, sa fureur est tombée comme le souffle du motos. Mais, ayant recouvré l'esprit, il est maintenant tourmenté d'une douleur nouvelle, car contempler ses propres maux quand personne ne les a causés que soi-même accroît amèrement les douleurs. Depuis qu'il sait ce qui s'est passé, il se lamente en hurlements lugubres, lui qui avait coutume de dire qu'il était indigne d'un homme de pleurer. Il reste assis, immobile, hurlant, et certes, il médite contre lui-même quelques noirs desseins. Mais quand l'accès est passé pour Harry Van Blamberg, ce ne sont pas des troupeaux et des pasteurs égorgés qu'il a devant lui. La douleur ne tue pas en un instant, puisqu'il n'est pas mort en apercevant sa mère assassinée devant lui, puisqu'il n'est pas mort en entendant sa mère mourante lui dire, comme la princesse Andrée dans Tolstoï, « Henri, qu'as-tu fait de moi? Qu'as-tu fait de moi ?» En arrivant au palier qui interrompt la course de l'escalier contre le premier et le second étage, dit le matin, les domestiques, que dans ce récit peut-être d'ailleurs inexact, on n'aperçoit jamais qu'en fuite et redescendant les escaliers 4 à 4, les domestiques virent Madame Van Blarenberg, le visage révulsé par l'épouvante, descendre 2 ou 3 marches en criant « Henri, Henri, qu'as-tu fait ?» Puis la malheureuse, couverte de sang, leva les bras en l'air et s'abattit la face en avant. Les domestiques épouvantés redescendirent pour chercher du secours. Peu après, 4 agents qu'on est allé chercher forcèrent les portes verrouillées de la chambre du meurtrier. En dehors des blessures qu'il s'était faites avec son poignard, il avait tout le côté gauche du visage labouré par un coup de feu. L'œil pendait sur l'oreiller. « Oh, ici ce n'est plus à Ajax que je pense. Dans cet œil qui pend sur l'oreiller, je reconnais, attaché dans le geste le plus terrible que nous ait légué l'histoire de la souffrance humaine, l'œil même du malheureux Édipe. Édipe se précipite à grands cris. Va, viens, demande une épée. Avec d'horribles cris, il se jette contre les doubles portes, arrache les battants des gonds creux, se rue dans la chambre où il voit Jocaste pendue à la corde qui l'étranglait. Et la voyant ainsi, le malheureux frémit d'horreur, dénoue la corde, le corps de sa mère n'étant plus retenu, tombe à terre. Alors il arrache les agrafes d'or des vêtements de Jocaste, il s'en crève les yeux ouverts, disant qu'ils ne verront plus les maux qu'il avait souffert et les malheurs qu'il avait causés, et criant des imprécations, il frappe encore ses yeux aux paupières levées, et ses prunelles saignantes coulaient sur ses joues en une pluie et une grêle de sang noir. Il crie qu'on montre à tous les Cadméens le parricide. Il veut être chassé de cette terre. Ah, l'antique félicité était ainsi nommée de son vrai nom. Mais à partir de ce jour, rien ne manque à tous les maux qui ont un nom. Les gémissements, le désastre, la mort, l'opprobre. Et en songeant à la douleur d'Harry Van Blarenberg, quand il vit sa mère morte, je pense aussi à un autre fou, bien malheureux, à lire, étreignant le cadavre de sa fille Cordelia. Oh, elle est partie pour toujours, elle est morte comme la terre. Non, non, plus de vie. Pourquoi un chien, un cheval, un rat ont-ils la vie quand tu n'as pas même plus le souffle? Tu ne reviendrais plus jamais, 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 jamais. Regardez, regardez ses lèvres. Regardez-la, regardez-la. Et malgré ses horribles blessures, Henri Van Bladrenberg ne meurt pas tout de suite. Je peux m'empêcher de le trouver bien cruel, quoique peut-être utile. Oh, est-on si certain de ce que fut en réalité le drame? Rappelez-vous les frères Karamazov, le geste du commissaire de police. Le malheureux n'est pas mort. Le commissaire le prit par les épaules et lui parla. M'entendez-vous? Répondez! Le meurtrier ouvrit l'œil intact, cligna un instant et retomba dans le coma. Ah, ce cruel commissaire, j'ai envie de redire les mots dont Kent, dans la scène du roi Lear que je citais précisément tout à l'heure, arrête Edgar qui voulait réveiller Lear déjà évanoui. Non, ne troublez pas son âme. Oh, laissez-la partir. C'est le haïr que vouloir sur la route de cette vite l'étreindre plus longtemps. Si j'ai répété avec insistance ces grands noms tragiques, surtout ceux d'Ajax et d'Édipe, le lecteur doit comprendre pourquoi aussi j'ai publié les lettres et écrit cette page. J'ai voulu montrer dans quelle pure, dans quelle religieuse atmosphère de beauté morale eut lieu cette explosion de folie et de sang qui l'éclabousse sans parvenir à la souiller. J'ai voulu aérer la chambre du crime d'un souffle qui vint du ciel, montrer que ce fait divers était exactement un de ces drames grecs dont la représentation était presque une cérémonie religieuse, et que le pauvre parricide n'était pas une brute criminelle, un être en dehors de l'humanité, mais un noble exemplaire d'humanité, un homme d'esprit éclairé, un fils tendre et pieux, que la plus inéluctable fatalité, disons pathologique pour parler comme tout le monde, a jeté, le plus malheureux des mortels, dans un crime et une expiation digne de demeurer illustre. Je crois difficilement à la mort, dit Michelet, dans une page admirable. Il est vrai qu'il le dit à propos d'une méduse, de qui la mort, si peu différente de sa vie, n'a rien d'incroyable. En sorte qu'on peut se demander si Michelet n'a pas fait qu'utiliser dans cette phrase un de ses fonds de cuisine, que possèdent assez vite les grands écrivains, et grâce à quoi ils sont assurés de pouvoir servir à l'improviste, à leur clientèle, le régal particulier qu'elle réclame d'eux. Mais si je crois sans difficulté à la mort d'une méduse, je ne puis croire facilement à la mort d'une personne, même à la simple éclipse, à la simple déchéance de sa raison. Notre sentiment de la continuité de l'âme est le plus fort. Quoi, cet esprit qui tout à l'heure, de ses vues dominait la vie, dominait la mort, nous inspirait tant de respect, le voilà dominé par la vie, par la mort, plus faible que notre esprit, qui, quoi qu'il en ait, ne se peut plus incliner devant ce qu'il est si vite devenu, presque néant. Il en est pour cela de la folie, comme de l'affaiblissement des facultés, chez le vieillard, comme de la mort. Quoi ? L'homme qui a écrit hier la lettre que je citais tout à l'heure, si élevée, si sage. Cet homme aujourd'hui, et même pour descendre à des infiniment petits, fort importants ici, l'homme qui très raisonnablement était attaché aux petites choses de l'existence, répondait si élégamment à une lettre, s'acquittait si exactement d'une démarche, tenait à l'opinion des autres, désirait leur paraître sinon influent, du moins aimable, qui conduisait avec tant de finesse et de loyauté son jeu sur l'échiquier social. Je dis que cela est fort important ici. Et si j'avais cité toute la première partie de la seconde lettre, qui, à vrai dire, m'intéressait en apparence que moi, c'est que cette raison pratique semble plus exclusive encore de ce qui est arrivé que la belle et profonde tristesse des dernières lignes. Souvent, dans un esprit déjà dévasté, ce sont les maîtresses branches, la cime, qui survivent les dernières, quand toutes les ramifications plus basses sont déjà élaguées par le mal. Ici, la plante spirituelle est intacte. Et tout à l'heure, en copiant ces lettres, J'aurais voulu pouvoir faire sentir l'extrême délicatesse, plus l'incroyable fermeté de la main qui avait tracé ces caractères si nets et si fins. Qu'as-tu fait de moi? Qu'as-tu fait de moi? Si nous voulions y penser, il n'y a peut-être pas une mère vraiment aimante qui ne pourrait à son dernier jour, souvent bien avant, adresser ce reproche à son fils. Au fond, nous vieillissons, nous tuons tout ce qui nous aime par les soucis que nous lui donnons, par l'inquiète tendresse elle-même que nous inspirons et mettons sans cesse en alarme. Si nous savions voir dans un corps chéri le long travail de destruction poursuivi par la douloureuse tendresse qui l'anime, voir les yeux flétris, les cheveux longtemps restés indomptablement noirs, ensuite vaincus comme le reste des blanchissants, les artères durcies, les reins bouchés, le cœur forcé, vaincu le courage devant la vie, la marche ralentie, alourdie, l'esprit qui sait qu'il n'a plus à espérer, alors qu'il rebondissait si inlassablement en invincibles espérances, la gaieté même, la gaieté innée et, semblait-il, immortelle, qui faisait si aimable compagnie avec la tristesse, à jamais tarie. Peut-être celui qui saurait voir cela, dans ce moment tardif de lucidité que les vies les plus ensorcelées de chimères peuvent bien avoir, puisque celle-même de Don Quichotte ou le sien, peut-être celui-là, comme Henri von Barenberg, quand il eut achevé sa mère à coups de poignard, reculerait devant l'horreur de sa vie et se jetterait sur un fusil pour mourir tout de suite. Chez la plupart des hommes, une vision si douloureuse, à supposer qu'il puisse se hausser jusqu'à elle, s'efface bien vite au premier rayon de la joie de vivre. Mais quelle joie, quelle raison de vivre, quelle vie peuvent résister à cette vision d'elle ou de la joie? Quelle est la vraie? Quelle est le vrai?